Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que je vous présente sans tarder et que je remercie d'être venu depuis Dijon jusqu'à nous pour nous parler de son premier roman. Olivier Delbar, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier Delbar, nous nous sommes déjà croisés à Livres en Vigne, oui. Dans d'autres salons en Bourgogne. Vous n'êtes pas un nouveau dans le monde de l'écriture, plutôt poète, de par la quantité des ouvrages parus, alors soit La Renarde Rouge, L'Atelier des Noyers. L'Atelier des Noyers, une structure que vous connaissez bien, animée par votre épouse Claire Delbar, que nous saluons d'ailleurs,
oui,
au passage.
Tout à fait.
Des essais. Un essai paru sur le poète, alors pas forcément bien connu, le poète anglais Kenneth Wright.
Oui.
Et puis un essai, alors là, plus en lien avec vos préoccupations professionnelles, Par-delà le développement durable, nature, culture et coopération, c'était en 2014 aux éditions Le Bord de l'eau. Et voilà que, depuis novembre de l'année dernière, vous entrez en piste sur la scène de l'édition romanesque, premier roman, aux éditions Coxygru, intitulé La Voix cendrée. Olivier Delbar, exercice un peu toujours difficile et délicat, est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Je pourrais me contenter de lire la quatrième de couverture, mais je vous laisse le soin peut-être de
d'accord,
vous présenter,
d'accord,
s'il vous plaît.
Mais merci Yannick. Alors, c'est vrai que je suis un jeune romancier, mais qui a effectivement auparavant écrit de la poésie, quelques essais. Alors, pour me présenter rapidement, je dirais que je suis d'origine jurassienne et bourbonnaise, que j'ai passé ma jeunesse dans l'Allier, que je suis ensuite allé après des études à Clermont-Ferrand à Paris, où j'avais une formation d'angliciste. Et puis je me suis un petit peu spécialisé, un peu tout seul, je dirais, sur les questions d'écologie et de développement durable, parce que c'était déjà des thématiques que je portais depuis longtemps et sur lesquelles j'avais travaillé dans mes études d'anglais. Et puis il y a presque une vingtaine d'années, on s'est installé près de Dijon, un peu plus près des racines et dans une vie beaucoup plus proche de la nature qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je suis enseignant spécialisé sur ces questions-là, effectivement.
Question d'écologie et de développement durable. Oui. Vous êtes aussi traducteur, bon angliciste.
Oui, j'ai traduit
donc,
également.
Hein.
Oui,
alors l'année dernière, au mois d'octobre, j'avais eu le plaisir, lors d'une table ronde organisée, oui, par les bénévoles du Salon du Livre de Blanzy, de vous accueillir aux côtés de Claudine Vincenot,
oui,
pour Voyage en pays celte, à l'Atelier des Noyers, qui reproduit des gouaches du père à la Bourgogne, hein,
oui,
Henri Vincenot, et des gouaches auxquelles vous donnez un sens poétique à travers les textes qui les accompagnent. Donc, c'était un voyage en pays celte, ouais, à l'Atelier des Noyers. Mais aujourd'hui, je souhaite que nous parlions bien sûr de La Voix cendrée, ce roman paru aux éditions Coxygru. Alors c'est un roman qui a un lien très fort avec la nature. C'est d'ailleurs la carte d'identité éditoriale des éditions, ouais, Coxygru. La Voix cendrée met en scène un homme marié, la cinquantaine, qui a une bonne situation professionnelle. Il est cadre marketing dans une société parisienne dont les bureaux sont dans une grande tour. Il habite en banlieue parisienne, confortablement installé avec son épouse Fabienne. Ils n'ont pas d'enfants, mais ce n'est pas un drame pour ce couple. Bonne situation, loisirs. Et un jour, cet homme, j'allais dire, il a le mérite de ne pas regarder le trottoir et ses chaussures. Il lève les yeux au ciel, interpellé aussi par ce que vous appelez la partition du ciel. Et là, je vous laisse nous évoquer la suite.
Et là, c'est une scène assez étonnante. Il est parti pour une petite promenade avec son épouse dans le sud-ouest. Et en remontant vers Paris, En novembre, il lève les yeux vers le ciel, effectivement, parce qu'il y a un bruit, absolument une clameur incroyable, et il voit plusieurs, probablement centaines d'oiseaux qui filent très très bas dans le ciel, à travers le ciel. Et donc ça va être le déclencheur de toute une, je dirais, une démarche de réflexion sur sa vie, sur son enfance, de rupture finalement avec le modèle qu'il avait adopté.
Alors Jérôme, vous nous le présentez, il y a des retours en arrière. C'est un garçon, bon, fils unique, qui est né dans un milieu de classe moyenne, socialement parlant.
Oui.
Entre une maman institutrice, si je ne m'abuse, un papa qui travaillait à la banque, qui n'était pas non plus un grand cadre sup de la banque, mais qui était sans doute un employé dans une banque. Et puis, il travaille dur, il réussit brillamment ses études, classe prépa commerciale. Et puis, il rentre dans le moule du monde du travail. Alors, votre roman est très intéressant parce qu'à la fois, il met en avant la métamorphose mentale, morale d'un homme qui se considère à un moment, au regard du poids de sa hiérarchie, il se sent un peu soumis, obéissant. Il se définit, et le terme est dans votre roman, comme un pantin social. Alors, sommes-nous tous, Olivier Delbarre, des pantins sociaux ?
J'espère que non.
Et vous ne vous considérez pas comme un pantin social ?
Non, j'espère que non, mais en fait, vous savez, quand je pense à Jérôme, je pense à ces personnages, ces personnes qui m'est arrivé de voir les quelques rares fois où je suis allé, par exemple, dans le quartier de la Défense à Paris, et qui sont tous habillés de la même façon et qui avancent d'un pas mécanique à la sortie du métro pour aller effectivement dans les tours. Donc le pantin social, c'était effectivement l'image aussi de tous ces gens qui travaillent pour des grandes organisations dans lesquelles finalement la pression est tellement forte qu'ils en oublient leur propre rêve, leur propre liberté, et que tout est animé et tout est guidé par les injonctions qui viennent
conditionner. Parce que Jérôme, il a connu une enfance dans une petite ville qui reste d'ailleurs mystérieuse.
Oui,
vous ne la nommez pas.
Qui est une ville en Bourgogne, mais qui est une ville, je peux le dire, c'est Nevers en fait, que je connais bien parce que j'y suis né et mes grands-parents y habitaient. Oui, alors je ne cite pas volontiers, je cite très peu de lieux précisément, mais oui, il est d'une petite ville de cette France dite provinciale.
Néanmoins, dans cette petite ville, ses occupations sont des occupations très contemplatives.
Oui.
Il observe le fleuve. Alors, il y a un petit clin d'œil, Vincenot, vous utilisez le verbe bibauder dans les champs et la forêt.
Absolument. Oui.
Jérôme, lorsqu'il se remémore cette enfance heureuse, tout de même, mon imaginaire est irrigué par le fleuve. Vous parlez de ce grand fleuve sauvage. Et puis, alors, ce qui est magnifique, c'est lorsqu'il est capable de rester fasciné, admiratif, devant une mare qui grouille d'insectes qui tournent autour de l'eau. Et ça, c'est très, très joli. C'est une image presque picturale.
Oui, c'est un souvenir d'enfance aussi, là, pour le coup. Moi, j'étais dans un collège rural, puisque j'habitais dans un petit village. Et on allait régulièrement voir cette mare qui était près de l'école. Et c'est vrai qu'elle m'a marqué à jamais, parce que la mare, c'est un microcosme extraordinaire, en fait. Avec les araignées d'eau, avec les têtards, avec tout ce monde.
Donc c'est tout de même un rural qui a grandi dans une ville qui n'est pas toute petite, petite ville de la Bourgogne, mais qui est donc contraint professionnellement d'aller s'adapter dans la grande ville. Alors pendant un temps, il s'y sent bien, peut-être corrompu par les bons salaires.
Probablement. Bien sûr, par cette forme d'ascension sociale que je pense beaucoup de gens en France ont peut-être connue, et cette ambition et un confort matériel et l'accès à un monde effectivement où on peut voyager, où on peut se distraire. Et donc ça tient effectivement pendant un certain nombre d'années dans son cas, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, c'est grues cendrées, puisque ce sont des grues cendrées.
Parce que c'est l'élément déclencheur.
Voilà, c'est l'élément déclencheur, mais qui est le déclencheur de quelque chose qui est probablement latent en lui depuis pas mal de temps.
C'est Olivier Delbarre qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio dans Wagon Livre pour son premier roman, La Voix cendrée. Alors, je rappelle qu'on peut le trouver chez les libraires, mais on peut aussi le commander sur le site des éditions Coxygru, hein, C-O-X-I-G-R-U-E, et c'est encore plus amusant parce que c'est Coxygru cendré.
C'est une coïncidence intéressante, oui. En fait, Coxygru, c'est une plante, hein, de montagne, c'est aussi un signe, je crois, typo. Mais c'est vrai que là, je me suis aperçu après que le nom de la maison d'édition était prémonitoire.
En tout cas, les grues cendrées sont, comme la nature, des personnages.
Oui.
Dans votre roman.
Absolument. Hein? Oui, ce sont des personnages importants et j'ai d'ailleurs fait beaucoup de recherches aussi sur la migration des grues.
Oui, on va en parler. On va en parler avec grand plaisir. Nous, on fait une petite migration musicale et nous revenons juste après avec Olivier Delbar, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Wagon Lit.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde, tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De toute façon, sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La voix cendrée, c'est le titre du premier roman de notre invité Olivier Delbar, qui est en cette fin de matinée devant notre micro. Nous parlions bien sûr de l'importance de l'élément déclencheur auprès de votre héros Jérôme, la cinquantaine, qui est émerveillé devant ce que vous appelez ce cadeau du ciel et qui va complètement modifier le point de vue d'un homme particulièrement bien ancré, bien intégré dans un, j'allais dire dans le marketing. Alors c'est amusant parce que le roman, alors là c'est très amusant, c'est un peu le, l'univers Macron d'ailleurs, tous ces anglicismes.
Ah oui, oui, ça c'est, hein, oui, oui, tout à fait.
Donc le roman débute par le voyage dans un wagon de métro de votre Jérôme, et puis ce n'est pourtant ni le lieu ni le moment, un meeting au sommet démarre dans une heure, un grand show se défile, le kick-off d'une nouvelle gamme de Jubio vendus dans des packagings complètement redesignés, le big boss sera présent, etc., etc., avec ses anglicismes qui sont placés en italique, et qui enfin, je trouve ça assez hideux.
Ben oui, mais c'est toute cette novlangue du management. Moi, il se trouve que j'enseigne dans une école de commerce, donc c'est vrai que c'est une langue que j'entends parfois. Donc, je voulais effectivement montrer cette, en fait, cette langue qui vide qui est vide de sens finalement, mais qui est une langue de stéréotypes et à laquelle Jérôme s'est habitué.
Voilà. Et alors, justement, il faut que vous nous parliez de ces magnifiques grues cendrées qui vont fasciner Jérôme, qui très largement offrent aussi une part de leur identité au titre de votre premier roman. Alors finalement, ces grues cendrées, 1,40 m de longueur et une envergure de 2 mètres.
Oui, 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 sont les plus gros oiseaux migrateurs en Europe. Donc j'ai fait pas mal de recherches. Je dois dire que j'ai toujours été fasciné par les migrateurs. Hein. Je trouve que la vue de deux oies sauvages qui passent au-dessus de nous, c'est magique, c'est extraordinaire. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'en fait, le couloir des grues cendrées, c'est un couloir qui part du nord-est de la France vers le sud-ouest, et qui correspond également à ce qu'on appelle, ce que les géographes ont appelé depuis une vingtaine d'années, la diagonale du vide. Donc j'avais aussi, je trouvais ça intéressant que le couloir des grues cendrées soit le même que cette France un petit peu qu'on oublie, ou cette France qui est un peu hors des grandes routes et hors de cette réalité dont vous parliez effectivement, des entreprises et de la Startup Nation, etc. Oui. Et donc pour moi, c'était vraiment une fusion de ces deux phénomènes. Et alors je dois dire que les grues cendrées, le spectacle des grues cendrées est absolument extraordinaire. C'est-à-dire quand elles hivernent, ou donc soit sur leur lieu de reproduction qui est plutôt dans le nord de l'Europe, en Suède ou autre, ou alors quand elles hibernent dans le sud de la France, etc. Ce sont des parades extraordinaires, ce sont des oiseaux assez magiques.
Alors la grue cendrée est fidèle.
Oui, j'ai appris ça. Oui, j'ai appris ça en faisant des recherches. Il y a quelques espèces animales qui sont fidèles, qui finalement ne restent avec le même partenaire.
Alors qu'est-ce qu'un être humain peut envier à une grue cendrée ?
Mais je me le demande, je me le demande. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'aime bien cette idée de fidélité. Et je me suis dit que c'était assez mystérieux finalement pour l'espèce humaine qui est assez volage, disons, de se dire que certaines espèces animales reposent sur un mécanisme de fidélité. Je trouvais ça assez intéressant et j'avais envie de le soumettre un petit peu. Il n'y a pas de jugement du tout là-dedans, mais c'est se dire, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant. Se dire, dans le monde animal, il y a effectivement des espèces fidèles.
Finesse du romancier aussi. À travers cette question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être libre pour une grue cendrée ? Et c'est peut-être ça qui fascine Jérôme, c'est la recherche de l'indépendance, d'une liberté, briser les carcans et se libérer des chaînes sociales et professionnelles.
Absolument, je crois que l'idée c'était aussi de dire que c'est une liberté de mouvement. Même si les migrations, ce qui est assez paradoxal et que je voulais aussi souligner, c'est que la migration, ce sont des grands cycles naturels qui nous échappent totalement, hein, qui d'ailleurs dont on ne parle pas assez, je pense, mais qui sont aussi mus par une sorte d'instinct de survie, hein, puisque les migrateurs fonctionnent sur ces grands cycles qui sont acquis, je dirais, de manière innée chez ces espèces-là. Et ce que je voulais montrer, c'était aussi le mouvement, c'est-à-dire que c'est l'idée de la liberté, c'est aussi de sortir de soi, de sortir de son espace confortable dans le cas de Jérôme et d'aller sur la route aussi, de prendre la route et d'essayer de retrouver quelque chose qui soit un rapport qui, effectivement, ait cette authenticité que les espèces animales ont avec leur environnement.
Et le spectacle des grues crée un déclic.
Oui.
Peut-être que Jérôme et son épouse Fabienne, elle est moins concernée dans un premier temps. Hein. Elle évolue sur deux ans parce que le roman débute en novembre 2016 et se termine en 2020.
En fait, je l'ai arrêté avant la pandémie. Il se trouve que je l'ai écrit avant, mais il a fallu que pour ne pas avoir ce Covid qui s'insère dans l'histoire.
Alors néanmoins, Vous avez, alors évidemment, c'est votre Jérôme, votre personnage qui, dont on saisit les points de vue, mais on peut supposer, sans trop se tromper, que Olivier Delbar adhère lui aussi à ce regard sévère et critique sur notre société dite moderne.
Absolument, oui. C'est pas un personnage, on me demande souvent, est-ce que c'est autobiographique. C'est pas mon premier. En fait, j'ai écrit un premier texte qui n'est pas encore publié avant celui-ci. Mais donc, oui, j'adhère. Enfin, l'idée, c'était... Je pense que le roman est une bonne façon aussi de faire passer certains messages sur l'état de notre société, mais d'une manière qui soit effectivement, qui s'insère dans une histoire. Mmh. Et je trouve que c'est parfois beaucoup plus efficace que des grands discours.
Alors, j'ai relevé certains termes concernant le regard de Jérôme et peut-être indirectement d'Olivier Delbar sur le monde de l'entreprise et notre société. Notre société, vous la qualifiez de mortifère. C'est sévère. Je veux dire, alors moi, je suis très content, justement, qu'il y ait un peu de rébellion, qu'il y ait des écrits qui dénoncent, parce qu'il y a un côté un peu lisse aussi de l'esprit. Vous parlez, non pas de propagande, mais vous parlez de martèlement un petit peu des médias, et tout le monde y adhère, au détriment souvent de la réflexion d'ailleurs, ce qui est assez lamentable.
Oui, j'avais vraiment envie de faire passer ce message, et je pense que c'est un... Il y a une sorte d'apathie dans notre société. Alors, dans le milieu de Jérôme, c'est une sorte d'entrée dans un monde codé où finalement le profit est l'unique objectif et où finalement les gens s'y retrouvent par le confort matériel que ça leur procure. Mais j'avais vraiment envie effectivement de lancer un petit peu quelques messages assez forts là-dessus. Ce que je voulais dire par mortifère, c'est vrai que alors, mon personnage aussi est dans une forme de rébellion. Donc c'est vrai que pour Jérôme, il y a une sorte de rupture qui s'exprime aussi d'une façon assez un rejet complet de ce mode de vie. Mais effectivement, je pense que l'individu a tendance à s'étioler aujourd'hui et on est soumis à une sorte de... un peu de pensée unique. Voilà, l'idée, c'est pas du tout de pousser à la révolution, mais c'est de se dire qu'au niveau individuel, je pense que chacun, on a en nous une forme d'épanouissement, de liberté qui est effectivement largement bridée par ce que la société nous demande de faire au jour le jour.
Vous parlez de grande prédation.
Ah oui. Oui. Alors c'était aussi un clin d'œil à l'écologie, parce que la prédation, c'est un des phénomènes de l'écologie, mais en écologie, il y a la prédation et la coopération qui sont absolument... Et oui, la prédation, c'est quand même un système effectivement très vorace. Le personnage est dans une grande entreprise multinationale américaine, dans mon esprit, et c'est vrai que cette prédation, Je l'ai un petit peu observé, un peu à l'écart, parce que je ne travaille pas en entreprise, mais je l'ai vu aussi par la manière dont ces grandes multinationales ont une attitude prédatrice vis-à-vis de l'environnement, des ressources naturelles et aussi des êtres humains.
Des entreprises qui ont les dents longues et qui n'hésitent pas à dévorer et à...
Qui dévorent, oui.
À abandonner sans humanité, parce que là, l'humain, il perd complètement.
Oui, sans humanité, et je pense que c'est un mécanisme, c'est-à-dire avec des individus qui travaillent dans ces entreprises qui sont fort, à mon avis, pris dans des contradictions extraordinaires, parce que je ne crois pas que tous les gens qui travaillent dans ces entreprises souhaitent être des prédateurs, mais le mécanisme en fait, de la maximisation, comme on dit, du profit, fait qu'on va, prendre des décisions qui sont extrêmement néfastes à la fois à l'environnement et aux humains.
Et puis il y a cette réflexion sur les marchés de Noël, puisque le roman débute au mois de novembre. Oui. Donc notre Jérôme, qui d'ailleurs va prendre une voie courageuse tout de même, dénonce les marchés de Noël. Il parle du village du Père Noël au pays des managers, des produits qui pour la plupart proviennent d'Asie du Sud-Est, où ils ont été fabriqués par de jeunes filles de 13 ou 14 ans, quand ce ne sont pas des enfants de 8 ou 9 ans. Oh, la belle déclinaison du marketing de Noël, une part de rêve bon marché pour Cadra et Quinca nostalgique.
Oui, c'est un petit peu le marché de Noël comme d'autres événements très bien marketés, comme on le dit, mais qui effectivement, le marché de Noël, il est d'origine plutôt, on le trouvera traditionnellement dans l'est de la France, en Franche-Comté, en Alsace, etc., en Allemagne, mais c'est vrai que c'est devenu une sorte de, je trouve qu'on est, de, oui, on a une marchandisation de ces traditions, finalement, on fête Halloween en France, etc., et je trouve ça, effectivement, il y a une sorte de standardisation, et en plus, dans la réalité, je sais que dans beaucoup de ces marchés de Noël, effectivement, et là, il se trouve que c'est en région parisienne, les produits, enfin, c'est très artificiel, c'est-à-dire ce sont des produits asiatiques et produits dans des conditions effectives.
Oui, c'est pas du local, c'est
non,
pas de l'artisanat.
C'est
pas,
voilà, c'est ça. Donc c'était un peu, voilà, c'est un peu cette prise de conscience de la part de Jérôme de ce monde finalement qui est fait d'artifice et duquel il va essayer de s'extraire pour retrouver une autre forme d'authenticité.
On se retrouve, Olivier Delbar, dans une poignée de minutes. On marque un nouvel intermède musical et puis nous reviendrons sur le phénomène, parce que c'est ça qui intéresse Jérôme, qui l'épate et le fascine, parce que ce phénomène de la migration peut aussi amener un humain à bouger et peut-être à briser les prisons qui sont dans sa tête. On se retrouve avec vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un premier roman intitulé La Voix cendrée et qui est disponible aux éditions Coxyde.
Les repas sont des îlots faits pour deux, des châteaux pour le vide. D'enfants, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, personne n'est invité à la folie, passionnément, un peu beaucoup, pas du tout, amour toujours, mais pas longtemps.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Olivier Delbar, alors revenons à vos grues cendrées. Ce qui vous intéresse, vous, de même que votre héros, Jérôme, c'est le phénomène de la migration, au point même que Jérôme dit qu'on devrait s'intéresser beaucoup plus à ce phénomène naturel de la migration chez les oiseaux, notamment les grues cendrées qui sont au cœur du roman. Mais vous dites qu'il y a aussi des migrations de cétacés, par exemple.
Ah oui, il y a énormément de migrations. Alors, les migrations de cétacés, les migrations des baleines, c'est un phénomène fascinant puisqu'elles retournent exactement au même endroit tous les ans pour se reproduire. Je fais aussi un petit clin d'œil à mon enfance avec les saumons qui remontent l'Allier, par exemple, que je voyais d'ailleurs quand j'allais au lycée à Moulins-sur-Allier, je les voyais sauter près du pont.
Et puis les baleines, pardonnez-moi, Olivier, oui. Vous le dites, les baleines dont les mâles n'hésitent pas à parcourir plus de 10 000 kilomètres.
Absolument, absolument. Et ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est la menace aussi que notre modèle de développement donc sur ces grands systèmes, finalement ces grandes migrations qui organisent la vie des espèces animales, ben elles sont aujourd'hui menacées aussi par le changement climatique, par la destruction de l'environnement à laquelle on se livre. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être vous parliez de migration, c'est que Jérôme va aussi effectuer sa propre migration. Hein, donc c'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs migrations dans le roman en fait.
Il se pose la question, je le cite, « Est-ce que je serai comme les grues cendrées en train d'amorcer ma propre migration ?»
C'est ça.
Concernant ces grues cendrées, finalement, est-ce que leur effectif ne diminue pas ? Il y a des dangers, certes, comme vous dites, l'environnement est menacé, même s'il y a toujours, il y a quand même aussi de véritables prises de conscience. En France, en Europe, on protège les milieux, et ça, c'est réjouissant.
Absolument, je le dis dans le roman. En fait, depuis quelques années, on a créé des lieux d'accueil, finalement, de ces grues cendrées, notamment en France. Alors, j'en parle pas, mais il y a le lac du Der, par exemple, aussi, qui est un des grands sites. Moi, je suis plutôt allé dans les Landes. En Champagne, oui. Moi, je suis allé plutôt à Arjusanx dans les Landes. Mais en fait, il y a beaucoup plus de protection de ces oiseaux aujourd'hui, notamment en Europe occidentale, où on leur réserve, finalement, des espaces. Et d'ailleurs, je le dis d'une manière un petit peu provocatrice, mais parfois on se demande s'il vaut mieux pas être une grue cendrée aujourd'hui que certains humains qui ne sont peut-être pas aussi bien protégés.
Là, c'est une autre audace intellectuelle, c'est effectivement de se dire, bon, finalement, les grues cendrées dans leur migration sont plutôt chanceuses, mais il y a des migrants de dimension humaine.
Absolument.
Et Dieu sait si là actuellement avec ce qui se passe en Ukraine et la Russie, enfin je ne sais pas,
notre
émission est enregistrée au début du mois de mars, mais on reparle de migration.
Absolument.
Et là c'est absolument terrible aussi.
Absolument, et c'est vrai que se dire que finalement on a pris conscience de l'importance de prendre soin des espèces migratrices et qu'en même temps pour tous ces migrants humains, et c'est vrai qu'avec l'Ukraine tous ces flots de réfugiés, comment va-t-on les accueillir?
Alors là, ce sont des réfugiés liés à une guerre, mais il y a la menace quand même du réchauffement climatique
absolument.
Qui risque aussi de provoquer de grands déplacements de population.
Avec des réfugiés climatiques aujourd'hui qui déjà sont avérés. C'est-à-dire que les Nations Unies, je crois, ont reconnu la notion de réfugiés climatiques aujourd'hui.
Je reviens aux grues et à leur capacité à migrer, Olivier Delbin. Vous dites dans le roman qu'elles disposent d'un compas magnétique interne et tous les oiseaux l'auraient apparemment.
Absolument. C'est un phénomène qui est inné dans ces espèces, qui est un compas magnétique qui leur permet de se diriger toujours vers la même direction pour aller se reproduire ou pour aller hiverner. Oui, absolument.
Alors, bien évidemment, Jérôme va aller observer les grues cendrées. Je ne raconte pas trop les choix qui sont les siens, mais il décide de partir un peu à l'aventure lui-même.
Oui.
Il organise. Lui, il n'a pas un compas magnétique dans l'œil, parce que quand il est embourbé sur une route secondaire en plein hiver dans le massif central, heureusement qu'il y a de temps en temps une voiture qui passe pour l'aider, parce que là, il était totalement impréparé.
Oui, c'est une scène que j'aime beaucoup.
Vous l'avez vécu ?
Bah, je connais assez bien l'Auvergne aussi. Je ne l'ai pas vécu complètement, mais je sais que ça existe, ça arrive. Et c'est vrai qu'il se trouve confronté à la réalité de la nature aussi, qui peut être hostile si on n'est pas préparé. Et c'était aussi l'occasion d'introduire certains personnages secondaires et de parler aussi de cette France justement dans cette diagonale dite du vide où l'accueil peut être aussi voilà une des
alors Jérôme rencontre un couple de Parisiens qui eux ont quitté Paris depuis fort longtemps.
Oui.
Ils ont racheté une ferme
oui.
et ils assument le choix d'une vie nouvelle.
Absolument.
Qui est régentée par ce que vous appelez, à moins que l'expression existe, hein, je n'en suis peut-être pas suffisamment informé, vous parlez de sobriété heureuse.
Oui, alors en fait, je l'ai emprunté à Pierre Rabhi, qui est décédé il y a peu de temps, qui est une des grandes figures de l'agroécologie en France, qui s'était installé en Ardèche. Et c'est lui qui avait créé, j'aime bien cette idée de sobriété heureuse, parce que le discours parfois écologiste est un discours plutôt... pas vraiment très heureux, hein, qui nous dit
un peu excessif, qui
insiste toujours sur les contraintes, sur etc. Et moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'on peut essayer de vivre en harmonie avec la nature d'une manière heureuse, mais en même temps que la sobriété, c'est peut-être aussi un mode de vie qui est très épanouissant et qui ne veut pas dire que notre vie est faite de contraintes, mais qu'on fait des choix plutôt de qualité, d'une certaine qualité de vie.
Vous parlez de vivre en harmonie avec la nature. Je suis intimement convaincu que finalement, Henri Vincenot reste très proche de vous. Parce que Henri Vincenot aussi, alors on connaît son côté un petit peu excessif aussi, des positions politiques très tranchées, mais on sait qu'il était partisan de la civilisation lente. Et j'ai l'impression qu'il est derrière votre dos quand vous écrivez.
Oui, c'est intéressant parce que je ne le connais pas plus que ça. Bien sûr, j'ai lu... certains de ses romans, mais j'ai aussi eu l'occasion d'en parler avec Claudine, sa fille, et je crois que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on tend à en retenir aujourd'hui. On retient certains aspects qui sont parfois effectivement un petit peu, je dirais, récupérés par une tendance un petit peu réactionnaire, et je crois que c'était quelqu'un qui était vraiment en empathie avec l'environnement dans lequel il était, et pour lequel c'était quelque chose d'effectivement absolument fondamental et qui transparaît. Alors, c'est intéressant ce que vous me dites. Oui, en tout cas, ce n'est pas volontaire, mais...
En tout cas, je pense encore à Vincenot parce qu'à un moment, Jérôme va dans la forêt.
Oui.
Alors, il y a des épisodes un peu malheureux où il manque de se perdre.
Oui.
Là, un petit moment de panique.
Contre, vécu, ça.
Ça peut être un peu angoissant,
oui.
Effectivement. Et puis, il y a... moi, je vois toujours un peu dans la tradition celtique...
Oui.
Cher à Henri Vincenot, oui. Le fait de s'adosser à un arbre oui. pour en récupérer
oui.
l'énergie. Et
oui.
vous parlez de la fonction thérapeutique de la forêt.
Ah oui, absolument. Mais ça, c'est un thème auquel je m'intéresse depuis fort longtemps et que j'ai vécu, qui est très fort dans la civilisation celte, effectivement, qu'on trouve aussi dans toutes les civilisations, je dirais, primitives, traditionnelles. Il se trouve que j'avais aussi dans mes études réfléchi à l'importance de la forêt dans l'inconscient humain, mais l'arbre nous est très proche finalement. L'arbre a des qualités qui ressemblent à celles de l'être humain, et je pense qu'il y a une forme de c'est une espèce très enracinée, solide. Et je pense que dans le cerveau archaïque de l'humain, le lien avec l'arbre et la forêt est très, très, très ancré. Et qu'on peut y retrouver effectivement un bienfait.
Alors, l'arbre aussi, c'est les racines.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, quelques années plus tard, Jérôme quitte la région parisienne.
Oui.
On peut dire qu'il s'isole, il choisit le Morvan.
Absolument.
Qui est un peu comme la Creuse, hein,
oui.
font partie de ces de ces régions dites pauvres et donc peu attractives. Et il fait un choix courageux d'une nouvelle vie au service d'une petite population, de ce qu'on appelle maintenant un territoire. Enfin,
oui.
Je ne comprends pas très bien ce sens. Je ne sais pas comment l'enseignant...
Non, j'aime pas trop cette idée de territoire.
Parce que maintenant, il est soi-disant incorrect... de parler de province.
Oui, oui.
Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de péjoratif dans le mot province. Alors, vous m'avez fait penser aussi, indirectement à travers les positions de Jérôme, et notamment sur la faim, quand il y a des organisations, des petites assemblées citoyennes, ça m'a rappelé un peu certaines pensées de Michel Onfray. C'est-à-dire le côté où en province, c'est-à-dire que Michel Onfray dénonce le jacobinisme, oui, la tendance où Paris est vraiment centralisateur, et Bruxelles aussi, hein, pour le plan européen. Et Onfray dit, mais finalement, on peut très bien, en province, lui, il utilise le terme de province, on peut très bien s'organiser, faire des choix, même politiques. Non, il n'y avait pas de...
Oui, alors moi, il n'y a pas d'allusion à Michel Onfray. Je connais bien sûr un petit peu son œuvre. Mais je pensais plus largement à toutes ces initiatives locales qui se développent un peu partout sur le terrain.
Alors, est-ce que c'est le signe, ces initiatives locales? Est-ce que c'est pour s'opposer à un pouvoir centralisateur? Ou est-ce que c'est une façon d'organiser peut-être une forme de survie des territoires?
Je pense que c'est une façon de tester un mode de vie différent qui est effectivement faire vivre aussi alors, ce fameux territoire, comme vous le dites, en tout cas une ère spécifique, une région bien déterminée. Et c'est vrai que derrière, il y a aussi un petit clin d'œil. Bon, moi, en tant que provincial qui est allé à Paris et qui est reparti de Paris, l'idée aussi, c'est de dire que beaucoup, beaucoup d'initiatives intéressante se passe aujourd'hui dans cette province qui a tendance à être qu'on regarde parfois de haut, hein, vu du pouvoir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire.
Ou même dans le monde de la littérature.
C'est-à-dire ou dans le monde de la littérature.
Si
absolument.
On est un écrivain publié par un éditeur parisien, on regarde, pas tous, hein,
non, pas mais tous,
certains regardent la province avec un peu de condescendance.
Absolument. Mais il y a quelques auteurs, je pense à Serge Joncourt par exemple, qui écrit sur cette. Enfin, il y a cette. Mais c'est vrai que j'adresse quelques petits messages et je crois fortement à la capacité du terrain, d'essayer de vivre différemment avec des populations aussi qui ont des origines différentes. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de régions, et c'est le cas dans le Morvan aussi, vous avez ce qu'on appelle les néo-ruraux, hein, qui s'installent, vous avez les gens qui sont là depuis toujours. Et Jérôme,
parce qu'il n'est pas sans poser certains problèmes, parce que les néo-ruraux,
bien sûr,
parfois, sont
bien
un
sûr,
peu
mais je connais,
spéciaux.
Bien sûr, tout à fait. Et Jérôme est un peu entre deux, c'est-à-dire il fait un peu le pont, puisqu'il vient, c'est quand même, ses racines viennent de cette région-là. En même temps, il est parti pour vivre dans la grande métropole, etc. Mais en fait, je crois qu'il y a une possibilité que ces gens arrivent à trouver un terrain commun et fassent vivre leur communauté, tout simplement.
Olivier Delbar, La Voix cendrée, votre premier roman. On marque un dernier intermède musical et puis ensuite, on va aborder un petit peu la nouvelle vie de Jérôme dans ce petit village du Morvan où il choisit de s'installer aux côtés d'une vieille voisine de 90 ans, comme diraient voisins suisses. Et puis, il organise, il propose, il fait vivre, allez, le territoire. Nous, c'est territoire musical et on se retrouve juste après avec notre invité.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Olivier Delbarre, La Voix cendrée, votre premier roman, votre héros, Jérôme, bon, dont la vie de couple va un peu battre, j'allais dire, de l'aile, sans petit ça. Clin d'œil à vos jolies grues cendrées qui peuplent le roman et qui sont aussi des personnages essentiels, des cadeaux du ciel. Que Jérôme ne regrette pas. Alors, il s'installe dans le Morvan, dans un tout petit village. C'est un choix assumé. Et là, alors, on pourrait penser qu'il est un peu rêveur. Certaines personnes qui vont aborder votre roman diront « Oh oui, mais bon, l'ancien cadre sup d'une société américaine qui rompt et qui décide de s'installer, de vivre » presque en autarcie, j'exagère peut-être un peu, on va dire « Oh oui, mais ça, c'est encore les doux rêveurs. » Non, que répondez-vous?
Alors moi, ce que je répondrais, j'étais tout à fait conscient de cette idée-là, mais ce que je répondrais, c'est que lui, il a vécu son enfance et son adolescence tout près de dans cette région-là, et donc c'est aussi un retour à des racines. Donc je pense que il faut donner cette possibilité. J'aimais bien l'idée, c'est pas du tout l'idée du bobo qui découvre la campagne, parce que c'est en lui, cette réalité-là. Donc c'est plutôt une sorte de retour sur quelque chose qu'il a probablement, qu'il avait finalement oblitéré pendant des années dans cette vie, dans cette carrière, etc. Mais donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence aussi. C'est cette, je pense que beaucoup de Français, d'ailleurs, les géographes le disent, on est une population dont les racines rurales sont assez proches, finalement, encore aujourd'hui. Parce que les parents ou les grands-parents étaient plus ou moins tous dans cette France provinciale et rurale. Donc, j'avais envie, même si les choses ne sont pas faciles, c'est-à-dire, je ne dis pas du tout que tout est simple, mais j'avais envie d'explorer cet itinéraire de vie et cette, à la fois cette ouverture qui lui permet aussi de s'enraciner d'une manière renouvelée dans un territoire qu'il redécouvre d'une certaine façon.
Audace de votre personnage qui va au bout de sa réflexion, vraisemblablement aussi guidée par ce vol magnifique des grues cendrées. Et d'ailleurs, vous dites de Jérôme, il se qualifie de migrant de l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Ça mérite quand même un commentaire. Il est migrant de l'intérieur.
Oui, parce que comme je parle des migrations au sens large, migrant de l'intérieur, parce qu'il fait... Alors, il effectue sa propre migration personnelle, mais migrant de l'intérieur, parce que je pense qu'aujourd'hui, la France est une société fracturée, malheureusement, et qu'il y a aussi cet écart entre, je dirais, les grandes métropoles et puis toute cette France... un peu dite désert français, etc. Donc cette migration de l'intérieur, c'est ça aussi. C'est ce changement très très fort d'une réalité à une autre que j'avais envie d'explorer.
En tout cas, dans votre roman, Olivier Delbarre, vous réaffirmez le Morvan dans sa tradition de terre d'accueil.
Oui, parce que je crois que c'est une réalité aussi. Et d'ailleurs, j'intègre, je fais intervenir aussi d'autres migrants dans le livre à la fin. Et je me suis inspiré de faits réels, hein. Il se trouve que plusieurs villages du Morvan, notamment, ont accueilli des personnes immigrées et que
Alors,
l'intégration se passe très bien.
dans votre roman, ce sont quelques Syriens qui
Oui,
arrivent.
oui.
Et là aussi, alors, grand débat sur l'identité, hein,
Oui.
l'élection
Oui.
présidentielle, bon, un peu confisquée par les événements,
Oui.
de la guerre, Ukraine-Russie, mais ce débat de l'identité, de l'intégration, suscite, beaucoup d'énervement, de passion, de polémique ou de
Oui.
violence. Et finalement, vous mettez en scène un adorable petit Syrien dont vous rappelez qu'il aimerait sans doute voir dans un pays en paix, la Syrie, le
Oui.
mythique ibis chauve.
Oui.
Et ce petit Syrien, qui s'appelle Toufik,
Oui.
est un fils spirituel, puisque Jérôme n'a pas eu d'enfant avec son épouse Fabienne.
Oui, j'ai voulu en fait, je dirais, tisser cette métaphore de la migration, donc des espèces, des oiseaux à Jérôme et à ces quelques familles syriennes et Toufik, qui est aussi une façon de, je dirais, de boucler la boucle en quelque sorte aussi pour Jérôme. Et c'est vrai qu'il va y avoir une liaison, un lien très très particulier qui va se tisser entre Jérôme et Toufik. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de faire entrer, et d'une manière, j'espère, disons, assez nuancée et subtile, cette question de l'immigration, qui est un sujet tellement complexe à...
C'est-à-dire que là, vous nous présentez ces Syriens qui arrivent dans le Morvan. On imagine le choc, enfin, du contexte naturel, le choc civilisationnel. Et finalement, ces migrants, pour Jérôme et même pour les Morvandiaux qui vont les adopter progressivement, même si au départ, dans le Morvan, on est toujours un peu
Bien
méfiant à
sûr,
l'égard de
bien sûr.
l'étranger, finalement, ces migrants sont des oiseaux de bon augure avec le
Oui,
temps.
absolument. Et puis, bon, moi, je l'ai aussi expérimenté à titre personnel dans certains villages que je connais. L'accueil de l'étranger peut se faire, contrairement à ce qu'on pense. On pense toujours que la France dite rurale ou provinciale est fermée, mais je pense que l'accueil peut se faire. C'est une question aussi, évidemment, de nombre de personnes qui arrivent, mais il y a plusieurs cas qui montrent que l'intégration, parce que beaucoup de familles immigrées, on ne le sait pas, sont accueillies dans des villages du Massif central, du Morvan, etc., dans des petits villages, et l'intégration se passe bien. Donc je voulais le dire aussi.
Oui, et puis il est vrai que Jérôme a pour voisine une femme très
Oui,
âgée,
oui.
bon, que l'on retrouve morte, hein, la gendarmerie est
Oui,
obligée de forcer la
oui,
porte, et
oui,
puis on découvre le corps inanimé de cette femme âgée, qui s'était réjouie d'ailleurs de voir arriver un
oui.
homme de 50
Oui,
ans.
oui,
Et finalement, autant dans le roman, il y a des aspects un petit peu inquiétants sur cette société.
oui.
Vous parlez de la violence. Alors c'est Fabienne aussi qui finalement aussi
Oui,
va se laisser un peu convaincre
oui,
qu'on peut
parce qu'elle va
migrer.
aussi subir aussi
Et oui,
cette...
elle est victime tout d'un coup des appétits des moutons à tête de loup, comme aurait dit Julos Bocarne. Vous écrivez, la violence se diffuse comme une épidémie incontrôlable. Il est vrai que l'épisode des confinements ont peut-être été ce que le vol des grues cendrées a pu représenter pour Jérôme, pour ceux qui habitaient dans des conditions
Oui,
d'appartements, dans les
en fait, il
ensembles
se trouve que oui,
urbains.
j'ai écrit ce livre juste avant l'épidémie, la pandémie de Covid, mais je m'aperçois du fait, et on me le dit régulièrement aujourd'hui, les gens qui ont lu le livre, que c'est un peu annonciateur aussi d'une grande réflexion qui se produit aujourd'hui dans nos sociétés, où les confinements ont mis en avant aussi, je dirais, une échelle des valeurs et du mode de vie que les individus souhaitent avoir. Donc je pense qu'il y a effectivement toute cette réflexion de la, finalement, quels sont nos besoins, quelles sont nos finalités en tant qu'être humain. Et je crois que c'est un petit peu anticipé, oui, je l'ai un petit peu, c'est quelque chose que dont c'est un phénomène aujourd'hui assez important, finalement,
Alors,
de...
vous nous invitez à réfléchir sur notre propre condition personnelle, intellectuelle, morale, philosophique, professionnelle également. Il y a cette réflexion sur le fait, humain, lever la tête, regarder un peu autre chose que le trottoir quand vous marchez. Ça, je trouve que vous avez entièrement raison. Il y a aussi le fait d'être beaucoup plus attentif à la nature.
Oui.
Et être attentif à la nature, c'est aussi déjà un début de préservation de cet environnement, pour nous comme pour les espèces animales et végétales.
Oui, et je pense fortement que c'est aussi la seule façon de ressouder la société. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un lien très fort entre la manière dont les êtres humains doivent retrouver un rapport beaucoup plus, je dirais, direct et authentique avec la nature. Et je pense que ça ne peut qu'avoir un aspect positif sur les relations entre humains. Et aujourd'hui, la solidarité, je pense qu'elle peut aussi être créée par justement retrouver des liens avec cette nature. La dimension naturelle et sociale, je pense qu'elles sont très très liées en fait.
On est presque au terme de l'émission, mais je voudrais juste lire, c'est presque l'extrême fin de votre premier roman, dont je rappelle le titre, La voix cendrée aux éditions Coxigru. Donc c'est Jérôme qui dit « Les pieds dans l'humus, la tête tournée vers le ciel, à des années-lumière des fichiers XL et de l'hyperconnectivité. »
Oui.
Un beau programme à mettre en place, si ce n'est pas déjà fait.
Ben oui, je pense que c'est un peu l'idée. Et puis je voulais aussi que c'est vrai qu'il y a, comme vous le dites, il y a une dimension un petit peu sombre et critique de la société, mais j'avais envie vraiment que le livre aille vers quelque chose de serein et d'optimiste d'une certaine façon.
Oui, puisque Jérôme dit que modestement, à mon échelle, j'ai le sentiment d'apporter ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, contribuer à élaborer un monde réellement résilient, vivable, durable, loin des slogans creux répétés à longueur de journée dans les médias.
Oui, oui, tout à fait.
Merci, Olivier Delbar, d'avoir pris le temps de venir jusqu'à
merci
nous.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Et puis de nous donner le plaisir de mettre un coup de projecteur mérité sur ce premier roman, La voix cendrée, paru aux éditions Coxigru, donc dans la collection Romans et Nature, et qui concourra l'année prochaine pour le prix du Morvan.
Oui.
Alors, belle existence à ce livre, qui n'intéressera pas que les Morvandiaux, bien sûr.
Oui, je pense. Oui,
en tout cas, c'est un livre, c'est un roman, œuvre de fiction, mais qui, en tout cas, interpelle et pousse à la réflexion. Et par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup de votre
accueil. Olivier Delbar, La Voix Cendrée, chez Coxigru. Il ne me reste plus à vous saluer, Olivier. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés en cette fin de matinée sur Radion. S'ils ont manqué le début de l'émission, ils nous retrouvent, c'est magique, sur Internet, www.yannickpetit.fr. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Non sans oublier de vous souhaiter, non pas un bon week-end, mais un bon congé de fin de semaine. Au revoir.